J'aimerais ce matin que nous puissions prendre le texte qui se trouve dans le premier livre de Samuel, au chapitre 3. Je vais le lire dans la Bible en français courant, texte que je n'utiliserai plus après dans la suite de ma prédication. J'utiliserai plutôt la traduction de la Nouvelle Bible Second. Plus difficile à comprendre, mais plus proche du texte elle-même. Quant au jeune Samuel, il servait le Seigneur sous la surveillance d'Élie. En ce temps-là, il était rare que le Seigneur parle directement à un homme ou lui accorde une vision. Dieu établit Samuel comme prophète. Une nuit, le prêtre Élie, qui était devenu presque aveugle, dormait à sa place habituelle. Samuel aussi dormait. Ils étaient dans le temple du Seigneur, près du coffre sacré. Avant l'aube, alors que la lampe du sanctuaire brûlait encore, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci répondit, « Oui, maître. » Puis il accourut auprès d'Élie et lui dit, « Tu m'as appelé, me voici. » « Je ne t'ai pas appelé, » dit Élie. « Retourne te coucher. » Samuel alla se recoucher. Une seconde fois, le Seigneur appela Samuel. L'enfant se leva et revint dire à Élie, « Tu m'as appelé, me voici. » « Non, mon enfant, » répondit Élie, « je ne t'ai pas appelé. Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore personnellement le Seigneur, car celui-ci ne lui avait jamais parlé directement jusqu'alors. Pour la troisième fois, le Seigneur appela Samuel. Samuel se leva, revint trouver Élie et lui dit, « Tu m'as appelé, me voici. » Cette fois, Élie comprit que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant, et il lui dit alors, « Va te recoucher. Si on t'appelle, de nouveau tu répondras, « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Samuel alla donc se recoucher à sa place. Le Seigneur vint et se tint là, comme les autres fois. Il appela, « Samuel, Samuel !» L'enfant répondit, « Parle, ton serviteur écoute. » Verset 19. Samuel devint grand. Le Seigneur était avec lui, si bien qu'aucune des paroles que Samuel prononçait de sa part ne restait sans effet. C'est ainsi que dans tout le pays d'Israël, de Dan à Beersheba, on sut que Samuel était un vrai prophète du Seigneur. Le Seigneur continua à se manifester à Silo. En effet, c'est là qu'il se révélait à Samuel pour lui faire connaître sa parole. Samuel. Samuel, un enfant donné, un enfant offert. Pourquoi est-ce que je dis cela? Tout simplement parce qu'il faut que nous nous rappelions ce qui est écrit dans le premier livre de Samuel au chapitre 1 et verset 11. L'Écriture nous dit, elle, c'est-à-dire sa Anne, sa mère, fit un vœu en disant, « Seigneur des armées, si tu daignes regarder mon affliction, si tu te souviens de moi et ne m'oublies pas, si tu me donnes une descendance à moi qui suis ta servante, je le donnerai au Seigneur pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. » Samuel est arrivé dans un couple en difficulté, un couple en problème. Souvenez-vous de ce qui unissait Anne, la maman de Samuel, et Elkana, le père. Des hommes, une femme et un homme qui sont des pratiquants qui régulièrement montent au sanctuaire de Silo pour offrir des sacrifices à Dieu. Et année après année, chaque fois ils se présentent, et pendant des années, ils se présentent sans avoir d'enfant, sans descendance. Ne pas avoir de descendance en Israël, c'est une catastrophe. Comme dans bien d'autres pays encore aujourd'hui. Mais c'est vrai que dans l'Ancien Testament, ne pas avoir d'enfant, c'est un signe de malédiction. Je précise bien, dans le cadre de l'Ancien Testament, il n'en sera plus de même dans le Nouveau Testament en Jésus. À tel point que le poids de cette infertilité est telle qu'en fin de compte, Elkanah, quoique aimant sa femme, va se tourner vers une solution de l'époque, non pas l'enfant in vitro, mais d'épouser une seconde femme qui, elle, va lui donner des enfants. Votre portée, elle a duré combien de temps? Je parie plus ou moins 9 mois. Vous êtes d'accord? D'accord. Au temps de Samuel, les portées étaient de la même durée. Oui, mais quelquefois, on pourra en arriver à dire, oui, mais de ce temps-là, ça, c'était un peu plus court ou un petit peu plus long. Non, non, c'était de la même durée. Et l'Écriture nous dit que chaque année, il y avait un nouvel enfant. Tout cela me fait dire une chose, c'est qu'en fin de compte, la frustration de Anne, ce n'est pas une frustration de 1 mois, 2 mois, 1 an. C'est une frustration qui dure. Et à certains moments, nous nous posons la question, mais pourquoi, Seigneur? Pourquoi est-ce qu'en fin de compte, alors que nous sommes tellement croyants, tellement appliqués, tellement consacrés, pourquoi est-ce que tu ne réponds pas? Et vous n'aurez pas de réponse à cela. Mais c'est une question que l'on trouve dans la Bible. Pourquoi pas tout de suite et maintenant quand je le désire? Cette frustration, elle va durer jusqu'au jour où Anne va en arriver, alors qu'elle est tellement déplorée, elle va en arriver à dire « si tu te souviens de moi ». Ce qui veut dire « si, en fin de compte, tu vas intervenir pour moi ». Alors l'enfant que tu me donneras, dit-elle, je te le donnerai. Et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Ça veut dire quoi? Il y en a qui n'ont pas tellement de problèmes avec le rasoir, ni avec la coupe de cheveux, mais ne pas faire passer le rasoir sur la tête de quelqu'un, ça veut dire, dans la Bible, y être consacré pleinement et complètement. C'est ce que la Bible des Septante va appeler un nazir. Alors, écoutez bien ce que j'ai dit, hein. Nazir. Je n'ai pas dit nazi. Un nazir, ben, il y en a dans l'Ancien Testament. Vous en connaissez un qui est célèbre pour ses cheveux. Samson. Il y en a un entre l'ancien et le nouveau que vous ne connaissez peut-être. Jean-Baptiste. Et puis il y en a un dans le Nouveau Testament. Alors là, il faut chercher. Qui ? Non, il n'est jamais dit qu'il était un nazir. Mais il était un homme consacré. C'est Jésus. C'est Jésus, mais comment est-ce que je peux dire cela ? Tout simplement parce que, en fin de compte, en prenant l'évangile de Matthieu, quand vous lisez dans les premiers chapitres de Matthieu, chapitre 2, Matthieu dit « Jésus venu de Nazareth, Jésus le Nazaréen ». Mais certains manuscrits nous disent « le Naziréen ». Et Matthieu joue sur un jeu de mots « Nazaréen » parce que venant de Nazareth, « Naziréen », l'homme consacré. Et c'est vrai que s'il y en a bien un qui a été consacré et qui a été consacré jusqu'au bout, jusqu'à la croix, c'est Jésus, le Fils de Dieu. Un enfant donné, un enfant qui a, quelque part, un pédigré en naissant. Mais avoir un pédigré en naissant ne veut pas tout dire. L'Écriture nous dit, Samuel, officier, il servait. Et je voudrais simplement souligner que l'habit ne fait pas le moine. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Tout simplement parce que si on relit bien dans le chapitre 2 et le verset 18 de le premier livre de Samuel, il dit « Samuel officier devant le Seigneur ». Donc, en fait, Samuel, il est né, pas le divin enfant, hein. Samuel est né, donc il a été la réponse à la prière de Anne. Mais Anne a été une femme conséquente. Oh, bien souvent, combien de fois est-ce que Jean-Marie Thomas n'a pas dit « Seigneur, si tu me donnes !» Et quand je recevais, j'oubliais. Enfin bon, je suis peut-être différent de tout le monde, hein. Mais Anne, non, elle est conséquente. Si tu me donnes, je te le donne. Et Samuel a été donné. Et effectivement, lorsqu'il a été sevré, elle l'a mis au sanctuaire de Silo pour servir à côté du sacrificateur qui était Élie. Et Samuel grandit. Samuel officier devant le Seigneur, c'était un garçon qui portait un éphod de lin comme un pagne. Alors, notre frère Gaston peut nous expliquer ce que c'est qu'un pagne. Les uns et les autres, vous saurez que simplement c'est un tissu que l'on mettait autour de la taille. Hein ? Voilà pour le pagne. Mais maintenant que ce tissu soit un éphod, qui sait ce que c'est qu'un éphod ? L'éphod, c'est le tissu particulier et spécial fait de lin dans lequel on a brodé un fil d'or et qui est le tissu qui est spécialement réservé au sacrificateur. Alors je dirais que par là même, il n'a pas encore l'habit du sacrificateur, mais il est déjà quelque part en chemin pour l'être sacrificateur. Il a une partie du vêtement, en tout cas. Mais si je dis que l'habit ne fait pas le moine, c'est tout simplement ceci. C'est que, si je lis bien au chapitre 3 et au verset 7, il est dit « Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur, la parole du Seigneur ne s'était pas encore révélée à lui. » Samuel sert Il officie, il est dans le temple, il est dans le sanctuaire, il est aux côtés d'Élie, il rend service. Et l'Écriture me dit qu'il ne connaissait pas le Seigneur. Vous pouvez avoir un pédigré, vous pouvez être né avec un certificat, bon père, bonne mère, bien chrétien, c'est pas pour cela que vous êtes chrétien. Il faut encore le devenir. Moi, mon père et ma mère étaient des incroyants. J'ai été longtemps un incroyant jusqu'à l'âge de 27 ans, jusqu'au jour où j'ai compris que ma vie n'avait pas de sens et que Dieu donnait un sens à ma vie. C'est ce jour-là où j'ai abdiqué et que j'ai laissé tomber l'idée de l'inexistence de Dieu pour devenir croyant. Mais ce n'est pas parce qu'on est dans une famille chrétienne que on est chrétien. Et merci au pasteur de nous le rappeler encore ce matin dans la présentation. Mais Samuel est de ceux-là. Il ne connaissait pas le Seigneur. Et connaître dans le sens biblique du terme, c'est quoi ? Connaître, bien souvent dans notre culture occidentale, connaître, c'est avoir une connaissance, c'est-à-dire avoir quelques notions de « je connais ». Mais connaître dans la Bible, ce n'est pas ça. Car si vous retournez dans Genèse, chapitre 4, verset 1, vous allez voir qu'il nous est dit que Adam connut Ève, sa femme, et elle fut enceinte. Connaître, c'est quoi? Alors, connaître, on ne peut pas connaître le Seigneur comme on connaît sa femme, on ne peut pas connaître Dieu et avoir une relation sexuelle avec lui, mais connaître Dieu, c'est entrer dans l'intimité d'eux. Tout comme, d'ailleurs, c'est ce qui nous est dit pour Adam et Ève, il entra dans l'intimité de sa femme. C'est avoir une relation de proximité. Connaître Dieu, c'est avoir cette relation du « je » au « tu ». Connaître Dieu, Samuel ne le connaissait pas. Il avait entendu parler de lui, mais il n'avait pas encore réalisé qui était Dieu, tant que Dieu ne se révèle pas à lui. Et c'est pourquoi il est tellement important de pouvoir présenter un enfant en disant « Seigneur, voilà l'enfant que tu as donné ». Nous te le présenterons afin qu'il découvre en Jésus le salut. Il est important qu'en fait, Dieu se révèle. Et Dieu se révèle à cet enfant, afin qu'il entre dans le salut. Et pour Samuel, ce fut le cas. Ce fut le cas de façon assez étonnante, car en fait, l'Écriture nous redit, et je reprends le texte que j'ai lu tout à l'heure, le jeune Samuel officiait pour le Seigneur devant Élie. La parole du Seigneur était rare en ce jour-là et les visions n'étaient pas fréquentes. Un jour qu'Élie était couché à sa place, ses yeux commençaient à s'affaiblir, il ne pouvait plus voir. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple du Seigneur où était le coffre de Dieu. Quand on lit le texte, qu'on s'arrête sur le texte, il y a une phrase très problématique. Et la phrase très problématique est la suivante. La parole du Seigneur était rare. En ces jours-là, les visions n'étaient pas fréquentes. Est-ce que Dieu, à certains moments, arrête de parler? Est-ce que Dieu, à certains moments, ne dit plus rien? Est-ce que Dieu s'est endormi? Et Jean Ansaldi, qui était professeur à la faculté de Montpellier, disait « Un peuple qui n'entend pas Dieu parler est un peuple orphelin. Il ne sait plus ce qu'il doit faire, il ne sait pas s'il doit aller à gauche ou s'il doit aller à droite. » Aujourd'hui, Jésus nous a dit dans le Nouveau Testament « Je ne vous laisserai pas orphelin. » Donc Dieu parle. Dieu parle. Dieu parle comme au temps d'autrefois. Mais il y a alors le problème. C'est que au temps d'Élie, pourquoi est-ce que Dieu ne parlait pas? Permettez que je vous donne une solution qui est la mienne. Vous ne devez pas y adhérer forcément. Mais je crois que si Dieu ne parle pas, en fait, c'est pas tout à fait comme cela qu'il faut le comprendre, mais c'est que ceux qui devaient entendre n'entendaient pas. Car en fait, dans le temple, dans le sanctuaire à Silo, il y avait un sacrificateur. Un sacrificateur qui dormait. Un sacrificateur qui avait des problèmes de vue. Il était fatigué. Tout cela me fait et me conduit à me dire, mais en fait, ce sacrificateur, est-ce qu'il était encore prompt à entendre? Et pourquoi est-ce qu'il n'est pas prompt à entendre? Je vais vous donner peut-être une solution, je vais vous proposer en tout cas quelque chose, mais je voudrais que vous dire qu'il n'était pas tout seul dans le temple. En dehors de Élie et Samuel, il y en avait encore d'autres, des sacrificateurs. Qui était donc comme sacrificateur à l'époque, dans le temple? Il y avait les fils d'Élie. Ils étaient combien? Ils étaient deux. Effectivement, il y avait deux fils. Or, les deux fils d'Élie, ils avaient un dada. À ne jamais dire à Madagascar. Parce que ça ne veut pas dire du tout la même chose qu'en Belgique, je m'en suis rendu compte. Avoir un dada, c'est dada bé, c'est le grand-père à Madagascar. Avoir un dada, c'est avoir des choses que l'on aime. Et quelle est la pratique des deux fils d'Élie? C'est d'une part de détourner l'offrande à leur propre compte, ce que je dirais avoir comme motivation l'argent et faire en sorte de pouvoir accumuler un certain magot. Et l'autre chose, leur autre jeu, c'était quoi? Un jeu interdit, puisque en fin de compte, les femmes qui venaient au temple, au sanctuaire de Silo, ils couchaient avec. Ils avaient deux problèmes, l'argent et le sexe. Et je dirais juste une petite chose. Aujourd'hui, quelles sont les motivations qui traversent notre culture occidentale, européenne? Quelles sont les deux choses qui, quelque part, dans notre situation de vie, sont là toujours présentes, mais n'est-ce pas toujours l'accumulation des biens, plus d'argent, mais aussi où la sexualité dans notre civilisation occidentale est une chose qui est, en fin de compte, toujours sous-jacente à tout. Pour vendre un pot de yaourt, que fait-on? On déshabille une femme, c'est plus simple. Je ne sais pas ce que le yaourt a à voir avec la femme nue, mais en tout cas, c'est comme ça que les publicitaires font pour attirer notre attention. Et s'ils le font, c'est tout simplement parce que nous, avons de ces réflexes. L'argent et l'or, l'argent et le sexe sont deux choses qui vont faire en sorte que les fils d'Élie, ils n'entendent plus Dieu parler. Lorsque nous sommes dans cette civilisation occidentale, est-ce que les grands courants de pensée, occidentale ne sont pas précisément ceux qui obscurcissent la parole de Dieu, qui font en sorte qu'on n'entend plus Dieu, parce que Dieu a peut-être un message autre et différent. Élie, lui, il n'ose pas reprendre ses fils. Il est un papa gâteau, débonnaire. Il laisse faire. Voilà pourquoi, en fin de compte, me semble-t-il, et ça c'est ma lecture, qui n'engage que moi, pourquoi, en fin de compte, la parole est si rare en ce temps-là. Un jour qu'Élie était couché à sa place, ses yeux commençaient à s'affaiblir, il ne pouvait plus voir. Et l'Écriture me dit, la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, et Samuel était couché dans le temple du Seigneur où était le Dieu. La lampe n'était pas encore éteinte. Dans le sanctuaire, il y avait cette lampe. Mais si l'Écriture prend soin de dire c'est qu'elle n'est pas encore éteinte, ça veut dire tout simplement que en fait, il y a toujours le lumignon qui fume, il est toujours bien là, Dieu est toujours présent, même lorsque, quelque part, on a l'impression qu'il n'y est plus. Et en fait, si ceux qui sont prévus n'entendent pas, Dieu va se faire entendre et il va choisir l'autre voie, celle de parler à Samuel et de se révéler à Samuel. La lampe de Dieu. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 27 et au verset 20 et 21, il est dit ceci, « Toi, tu ordonneras aux Israélites de te procurer pour le luminaire de l'huile d'olive fine et vierge, afin d'entretenir constamment les lampes. C'est dans la tente de la rencontre, à l'extérieur du voile qui est devant le témoignage, qu'Aaron et ses fils disposeront les lampes, pour qu'elles soient du soir au matin devant le Seigneur. » C'est une prescription perpétuel pour toutes les générations des Israélites. Et j'ai souligné entretenir constamment les lampes. Une prescription perpétuelle. Qu'est-ce à dire? S'il y a le fait qu'il faut les entretenir constamment, ceci est pour toutes les générations d'Israélites. Or, je dis que les Israélites, selon la chair, c'est ceux qui sont nés d'Abraham, mais les Israélites, selon l'Esprit, c'est ceux qui sont nés de Jésus-Christ. Et donc, je me dis, mais tout compte fait, si cette prescription perpétuelle, est-ce qu'elle l'est aussi pour moi aujourd'hui ? Perpétuel, ça veut dire, si vous avez le même français que moi, pour toujours. Et donc, si c'est pour toujours, eh bien, cela me concerne moi aussi. Moi aussi, il faut que j'entretienne la lampe. Or, l'Écriture, nous avons déjà lu pas mal de psaumes ce matin, mais je rajouterai un verset, le 105 du 119, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Entretenir constamment la lampe de Dieu. C'est, en fin de compte, avoir un rapport constant à la parole de Dieu. Parole qui est éclairée de l'Esprit Saint et qui nous permet de comprendre aujourd'hui ce que Dieu dit et ce que Dieu veut. Mais comprendre la parole, c'est peut-être une entreprise un peu difficile, et c'est pourquoi, en fin de compte, la Ligue pour la lecture de la Bible a été à l'origine, il y a presque 150 ans d'ici maintenant, pour favoriser la lecture de la parole de Dieu et la compréhension de la parole de Dieu. Mais on en reparlera, parce qu'ici on est dans la prédication, on n'est pas dans la publicité. J'arrive tout doucement à la fin de ma prédication. Mais attention, quand un pasteur dit qu'il arrive tout doucement à la fin, ce n'est pas encore la fin. Le Seigneur appela Samuel et lui dit « Je suis là ». Et il courut vers Élie et il dit « Je suis là, tu m'as appelé ». Élie répondit « Je ne t'ai pas appelé ». Et retourna te coucher. Retourne te coucher, il alla donc se coucher. Et le Seigneur l'appela de nouveau Samuel. Alors, je ne sais pas si, de la place dont, où vous êtes, vous voyez, j'aime peindre. Hein. Alors, j'ai peint mon discours avec des appelas en rouge et des appelas en bleu. Car, en fait, quand j'ai traduit ce texte de l'hébreu en français, je me suis aperçu de quelque chose d'assez étonnant dans le texte biblique. Ce que j'ai trouvé qui était étonnant dans le texte biblique, c'était ceci. C'est que, en fait, lorsque l'Écriture dit « Le Seigneur appela Samuel », l'Écriture utilise le verbe « kara », mais l'utilise, alors, là, vous allez dire, pasteur, cause toujours mon coco, tu m'intéresses. L'hébreu utilise le kal inaccompli. Ça veut dire quoi? Vous avez l'indicatif présent en français. Hein, donc, l'indicatif, c'est un mode, le présent est un temps. En hébreu, on utilise comme mode le kal et le temps, on peut l'utiliser soit à l'accompli, soit à l'inaccompli. Lorsque vous utilisez un verbe à l'inaccompli, il a un autre sens que lorsque vous l'utilisez à l'accompli. Alors, le plus beau des exemples, c'est en Exode, chapitre 3, verset 14, lorsque Moïse dit à Dieu, devant le buisson ardent, mais qui dirais-je qui m'envoie? Et Dieu lui répondit quoi? Il lui répond, dit, je suis. Il utilise le verbe être. La seule chose, c'est qu'il l'utilise à l'inaccompli. Ce qui fait que le sens même du verbe être devient j'étais, je suis, et je serai. L'utiliser à l'inaccompli, c'est quelque chose qui a commencé, qui est et qui continue, qui se poursuit. Ce qui fait que Second a traduit cela de façon assez extraordinaire en disant l'Éternel. Il était, il est et il sera. Quand je reviens à mon texte, je vois que quand Dieu parle à l'inaccompli. Alors que lorsque Samuel parle ou que Élie parle, il l'utilise à l'accompli. C'est une parole qui est dite. Bien souvent, à Madagascar, j'ai rencontré des gens, des personnes, des jeunes filles à qui un beau séducteur a dit un jour, tu es la plus belle, tu es la plus extraordinaire des femmes, tu seras la femme de ma vie, avec toi je vais bâtir un empire. Et du coup, sous la séduction de ce langage, elles se sont laissées faire. Et dès le moment où elles ont été séduites, elles se retrouvent enceintes et le séducteur a le courage de prendre la fuite et de laisser cette jeune fille avec cet enfant se débrouiller. Combien est-ce que j'ai entendu de paroles d'hommes qui, en fin de compte, n'avaient pas de lendemain, des promesses qui n'avaient aucun lendemain. Et la parole de Dieu semble me dire qu'en fin de compte, il n'y a d'une parole d'homme, il ne faut pas attendre une suite, mais que quand Dieu promet, quand Dieu parle, alors Dieu, sa parole est éternelle. Ce qu'il a commencé, il le poursuivra jusqu'au bout. C'est ce que me semble me dire ce texte. Dieu appelle. On a utilisé le verbe kara, comme je l'ai dit. Et ce texte, ce verbe kara, est utilisé aussi dans un autre verset biblique, en Genèse 3, chapitres 8 et 9. Alors que l'homme et la femme entendirent le Seigneur Dieu qui parcourait le jardin dans la brise du soir, l'homme et sa femme allèrent se cacher parmi les arbres du jardin pour ne pas être vus par le Seigneur Dieu. Le Seigneur Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu ?» Dieu appelle et Dieu dit, « Où es-tu ?» Ce qui est paradoxal, parce que si nous disons que Dieu sait tout, que Dieu peut tout, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fin de compte, quand Dieu dit « Où es-tu ?» Est-ce que Dieu ne sait pas où se trouvent l'homme et la femme? Est-ce que Dieu ne sait pas ce qui s'est passé? Est-ce qu'il ne connaît pas la désobéissance? Est-ce qu'il ne sait pas ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden? La transgression? Il sait aussi où est l'homme et la femme. Ce qui fait que, en fait, les rabbins se sont penchés sur cela en disant, mais en fin de compte, il ne faudrait peut-être pas comprendre où es-tu dans le sens de où es-tu, mais plutôt dans le sens où en es-tu. Une phrase qui est à l'inaccompli, Ayeka en hébreu. Ce qui fait que si vous allez à la synagogue, le jour où l'on lit la Parasha Bereshit, le rabbin qui chante la Torah, parce qu'on ne la lit pas, on la chante, va arriver dans le texte, au chapitre 3 et au verset 9, et il se trouve devant un petit problème. Le petit problème, il est le suivant. C'est que, comme il chante, il a simplement une indication quand il doit élever la voix et quand il doit baisser la voix. Quand il doit, en fin de compte, continuer dans sa voix. Mais quand il arrive à Yeka, il y a un signe tout à fait particulier qui n'existe que à cet endroit-là, et qui lui dit qu'en fait, il ne peut pas s'arrêter de parler. Il ne peut pas s'arrêter de chanter. L'appel, où es-tu, où en es-tu, est un appel qui doit retentir pour toutes les générations et pour tous les peuples de la terre. Ce qui fait que ça fait à peu près ceci. en hébreu, il dort. Une parole. Une parole, où en es-tu? Et cette parole, elle nous rejoint encore aujourd'hui dans notre quotidien. Où en es-tu de ta relation à Dieu? Où en es-tu de ta relation avec lui? Connais-tu seulement celui qui t'appelle? Connais-tu celui qui désire donner un sens à ta vie? À faire que ta vie ne soit pas une autoroute entre le berceau et le corbillard, mais qu'en fin de compte, il y ait non seulement du sens pour aujourd'hui, mais qu'il y en ait encore du sens pour demain et pour l'éternité. Où en es-tu dans ta relation avec lui? Aujourd'hui est encore un jour du salut. Aujourd'hui, Dieu t'appelle. Dieu t'appelle à simplement venir à lui et à dire « je veux te connaître mieux ». Mais peut-être que toi aussi, depuis de longues années, tu connais Dieu dans ta vie. Mais ta relation avec lui, elle s'est diluée. Et aujourd'hui, Dieu t'appelle. Et Dieu t'appelle à dire, il y aurait un temps maintenant où il faudrait que on retrouve une relation d'amour, une relation d'intimité, dans laquelle, en fait, je pourrais à nouveau te parler. Dieu appelle. Dieu parle encore aujourd'hui. Combien de fois est-ce que j'ai vu dans les assemblées, et même à Madagascar, en plein milieu d'une prédication, un GSM qui sonne? Vous avez oublié, vous l'avez lu hein, tout à l'heure. Il faut que vous le rallumiez en sortant. Combien de fois est-ce que le GSM sonne? Combien de fois est-ce que j'ai vu des gens qui recevaient un appel, prenaient leur GSM et très discrètement sortaient en disant « je sors » et partaient? Qu'est-ce qui est premier dans ta vie? Est-ce que c'est le... Es-tu suffisamment curieux de savoir ce que Dieu veut te dire encore aujourd'hui? Ou est-ce que aujourd'hui, tu en es simplement devenu celui qui fréquente de temps en temps, mais ce qui anime ta curiosité, c'est celui qui t'appelle et qui pourra te rappeler certainement dans une heure. Qu'est-ce qui anime ta vie aujourd'hui? Dieu appelle, Samuel a entendu l'appel de Dieu. Et Samuel a répondu simplement cette petite phrase, « me voici ». Quelle va être ta réponse à l'appel de Dieu ce matin ?